Donc je vais vous parler ce soir d'Edith Stein et des voies de la conversion, voies V-O-I-E-S. C'est-à-dire que au-delà d'une biographie très brève que je ferai en première partie, et qui est le support obligé parce que chacun d'entre vous n'est pas forcé de la connaître intimement, j'aborderai, comme vient de dire M. Labbé, les questions des polémiques qui sont autour d'elle, de l'image que l'on se fait de sa personne et de la signification même de sa canonisation dans l'Église d'aujourd'hui. Donc, une biographie commentée qui donnera les principaux éléments de son caractère, de son cheminement, puis les éléments de la critique juive contemporaine qui ont été faits à cette canonisation, à cette béatification, à cette canonisation, la position romaine, ce que Rome entend faire passer à travers la personne d'Edith Stein et sa mise sur les autels, et l'attitude que nous autres catholiques fidèles nous sommes tentés d'avoir ou nous pouvons avoir vis-à-vis d'elle, et puis enfin la perception personnelle que j'en ai. Donc c'est dire si la multiplicité des points de vue est déjà en soi, j'allais dire, anormale au sens étymologique du terme, parce que habituellement les saints font ou devraient faire une sorte d'unanimité. J'ai entendu de mes oreilles, par exemple, une ancienne novice carmélite de tradition me dire que les sœurs de son Carmel étaient divisées à propos d'Edith Stein. Divisées. Il y avait deux camps, les pro et les anti. Bon, c'est quand même assez piquant, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la charité fraternelle de la communauté en question, bien sûr. Bon, je choisirai mon camp aussi, vous me permettrez. Edith Stein, elle naît le 12 octobre 1991 dans une famille de juifs croyants, de juifs orthodoxes, mais les nuances du judaïsme sont telles qu'on peut être à la fois orthodoxe et libéral, c'est-à-dire qu'on peut être de stricte observance ouvert au monde, comme on peut être de stricte observance fermé au monde. Donc on parlera d'orthodoxie libérale, c'est-à-dire d'une orthodoxie qui était malgré tout très intégrée à la culture allemande, à la société allemande de l'époque. Dans une famille nombreuse, une famille de 11 enfants, dont 7 seulement survivront. Premier point intéressant, je me permettrai dans cette biographie commentée de faire plus de commentaires qu'une biographie peut-être, parce que les biographies, il suffit de les lire, si j'ose dire. C'est déjà un point très intéressant vis-à-vis de certains d'entre nous que ce respect de la loi naturelle manifeste que nous avons dans ces familles. Une famille d'une fécondité absolument exemplaire, à une époque où la bourgeoisie voltairienne européenne est déjà dans une logique de malthusianisme absolu. Ce sont des gens qui ne plaisantent pas avec la voix du Seigneur. Et elle dira elle-même, parmi les mille citations que je vous ferai d'elle, elle dira elle-même en parlant de sa maman, de l'éducation qu'elle a reçue, notre éducation morale était très simple, disait-elle. Lorsque notre mère nous disait « cela est péché », nous savions tous que par là, elle voulait signifier le comble du haïssable et de ce qui est indigne de l'homme. Il n'allait pas y revenir. Elle est de ces petites filles à qui un froncement de sourcils suffit à faire comprendre le bien et le mal. On est très loin du judaïsme intellectuel libéral tel qu'on le verra fleurir dans le monde des intellectuels, des intellos, si j'ose dire, contemporains. Bien. Elle est née le jour de Yom Kippour, qui est la plus grande fête, qui, dans la mystique juive, est la plus grande fête de l'année, peut-être vraisemblablement supérieure à Pessah, à la Pâque, bon, qui est le jour du grand pardon. C'est très important pour les juifs, pour sa maman juive, qui ne s'est jamais convertie formellement, n'est-ce pas? Elle attache une grande importance au fait que sa fille soit née le jour de Yom Kippour. Mais pour un catholique qui a vu sa destinée, c'est aussi très important, je crois, symboliquement, le bon Dieu fait les clins d'œil qu'il veut, parce que de fait, c'est le jour de l'expiation. C'est le jour où, dans la tradition mosaïque, selon le rituel mosaïque, n'est-ce pas, les péchés d'Israël sont jetés sur un bouc qui est envoyé au désert. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que, d'un certain point de vue, Edith Stein est le bouc émissaire. J'allais dire, même dans notre Église d'aujourd'hui, pour des raisons diverses que j'expliquerai à la fin. Bon. Parmi les 7 frères et sœurs qui survivent, il y en a une qui lui sera particulièrement chère, c'est sa sœur Rosa, qui est de 8 ans plus âgée qu'elle, et qui lui sera si intimement liée qu'elle se convertira avec elle et mourra avec elle. Donc, quand on parle d'Edith Stein, on ne devrait pas oublier Edith et Rosa, et de la vie des carmélites qui les verront partir pour l'Est, arrêtée par la Gestapo, Rosa aussi était une sainte. Mais ce n'était pas une intellectuelle, c'était une femme beaucoup plus simple. Elle n'a pratiquement pas connu son père, puisque son père meurt en 93, elle a 2 ans, et l'anecdote n'aurait pas d'intérêt si certains analystes juifs n'en tiraient des considérations psychanalytiques que je vous lirai tout à l'heure. Donc, elle reçoit une éducation religieuse classique, orthodoxe, c'est-à-dire la récitation des prières dans la journée, la bénédiction de la table, la fréquentation de la synagogue, mais sans plus, c'est-à-dire sans l'effort spéculatif ou talmudiste ou kabbaliste qu'il peut y avoir derrière dans les milieux plus religieux, les milieux racidiques par exemple de l'Allemagne de l'époque. Et c'est une des raisons, là encore les analystes juifs, et j'anticipe sans arrêt parce que si trop formellement mon plan, il va devenir rapidement très sec. Certains analystes juifs objecteront qu'en réalité elle n'a jamais été juive parce qu'elle n'a pas été éduquée comme une juive pieuse. Et la définition du juif pieux, ben c'est un juif qui ne se convertit pas. Alors évidemment, la cause est entendue. Hein. Mais de toute façon, ça ouvre à une question que j'aimerais traiter un jour, et je le ferai si bon Dieu veut, qui est celle de la notion de religion juive et qui recouvre tout et son contraire. C'est une chose qu'on ne pense pas assez dans nos milieux. On s'imagine volontiers que le judaïsme est monolithique. C'est pas vrai. Le judaïsme, même religieux, va de l'athéisme intégral, je le dis sans rire, de l'athéisme intégral au mysticisme le plus hurluberlu, en passant par toutes les phases du panthéisme et du monothéisme standard. Donc, quand on a dit de quelqu'un, et c'est là qu'il y a une problématique, quand on a dit de quelqu'un, il a reçu une éducation religieuse juive, finalement on n'a rien dit, on n'a rien dit du tout. C'est à peine une étiquette et il faut l'interpréter. Hein. Elle-même dira qu'il n'y avait pas grande foi dans sa famille, alors qu'il y avait de la piété. Elle en donne pour exemple le fait que, par exemple, 2 de ses oncles sont suicidés. Bon, je ne dis pas que le suicide est une preuve de pas de foi, comprenez-moi bien. Hein. Ce sont des malheurs qui peuvent arriver dans une famille, non. Elle veut dire simplement qu'elle a senti qu'il y avait des manques, qu'il y avait des failles dans le sens de la vie, dans le désir de vivre. Bon. 2 de ses oncles se suicident. Sa sœur aînée, Else, chez qui elle ira vivre, perd totalement la foi. Épouse un homme qui n'a absolument pas la foi et qui plus est, dit du mal de la foi, y compris de la foi juive, qui n'aime pas Dieu. Sa maman, elle, sera d'une piété intraitable jusqu'à ses 90 ans, mais sans réflexion sur les fondements de sa foi. Hein. Alors, elle... En un sens, il est vrai, en un sens, qu'elle n'a jamais été profondément religieuse. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas juive. Par exemple, de la liturgie juive, elle racontera plus tard, à l'occasion d'un enterrement d'un de ses oncles, justement suicidé, hein, à l'occasion de cet enterrement, on n'y sentait pas la foi dans une vie ultérieure, ni un au revoir après la mort. Bien des années plus tard, lorsque j'ai assisté pour la première fois à un enterrement catholique, j'ai profondément été impressionné par le contraire. C'est intéressant comme témoignage. Hein. Ailleurs, elle dit qu'à son époque, et je crois que c'est vrai, d'après ce que j'ai pu lire, que c'est vrai que la plupart des juifs ne croient absolument pas à l'existence d'un âme immortelle, tout en pratiquant. J'ai entendu de mes oreilles, quand j'étais étudiant en langues orientales, une camarade très religieuse qui jeûnait à Kippour, par exemple, me dire, à la limite, que Dieu n'existe pas, ça n'a aucune importance, puisque nous avons la loi. Voyez-vous, une espèce de schizophrénie, et donc on peut être un juif pieux, ritualiste, et ne pas s'intéresser à ce qu'il y a après la mort. Et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme cela. Alors évidemment, ça ne va pas loin, et elle, qui était une exigence continuelle du pourquoi et du comment, a souffert très tôt de cela. Et l'on verra... qu'elle mettait cela, c'est très amusant, dans une expression qui peut paraître un peu subversif, et on rentre déjà dans la récupération d'Edith Stein, n'est-ce pas, le conformisme bourgeois. Et plusieurs fois dans ses souvenirs, elle dit, n'est-ce pas, je rêvais, par exemple, dans mes rêves, je voyais toujours devant moi un avenir brillant, je rêvais de bonheur et de gloire, car j'étais convaincu que j'étais destiné à quelque chose de grand, et point du tout, fait pour le cadre étroit et bourgeois dans lequel j'étais né. Hein. sentiment d'étouffement, et à mon avis, ce sentiment d'étouffement qu'on peut avoir dans un christianisme bourgeois, elle le ressentit en version juive bourgeoise, petit bourgeois, n'est-ce pas? Son caractère, à grande ligne, une exigence d'absolu, continuelle, pas d'abord intellectuellement, hein. Elle avait ce qu'on peut appeler au départ un sale caractère, comme peut-être les gens qui font de grandes choses. Hein. Pour les personnes qui nous regardent vivre de l'extérieur, je passais par des transformations incompréhensibles, brusques. Dans ma petite enfance, j'étais du vif argent, toujours en mouvement, franche, mettant partout mon grain de sel, doué en plus d'une obstination indomptable, qui se révélait colérique lorsque quelque chose allait à l'encontre de ma volonté. Et elle raconte que si on l'enferme dans sa chambre, elle tambourinait, donnait les copies dans la porte, de dépit et de rage. Bon. Mais à l'intérieur, il y avait aussi un monde caché. Là était retravaillé ce que j'avais vu et entendu dans la journée. Le spectacle d'un ivrogne pouvait me poursuivre et tourmenter pendant des jours et des nuits. C'était pour moi incompréhensible qu'on puisse rire avec cela. Et au temps de mes études, sans être membre d'une organisation ou émettre un vœu, je me suis mis à éviter toute goutte d'alcool pour ne pas perdre par ma propre faute quelque chose de ma liberté d'esprit et de ma dignité humaine. Lorsqu'en ma présence, il avait été question d'un assassinat, la nuit, je restais éveillé pendant de longues heures et de chaque recoin obscur, l'horreur rampait à ma rencontre. Même une expression un peu rude prononcée en ma présence par ma mère dans un moment d'excitation me peinait tant que je n'ai jamais plus oublié une petite scène et une discussion avec mon frère aîné. De toutes ces choses dont je souffrais en secret, je ne soufflais mot à personne. Il ne me venait même pas à l'esprit qu'on puisse en parler. Voyez-vous, un souvenir comme ceci, à mon avis, donne déjà une clé de la personnalité d'Edenstein. Hein, la grâce supprime par la nature, et on ne fait pas des saints avec des chiffres molles. Un sale caractère qui s'est dompté. Une petite fille qui ne veut pas qu'on se moque de ce qui est sérieux et qui veut qu'on la prenne aussi au sérieux, mais en même temps une pudeur telle qu'elle estime qu'il ne faut pas révéler le secret de son moi profond, ça ne se fait pas. Et on peut plusieurs fois le mot dignité de la personne. Alors voilà encore un exemple de récupération. On comprend bien quand on lit l'ensemble de sa vie et de son exigence que dignité de la personne ne signifie pas au sens Vatican II des droits que la personne aurait et qu'il faudrait respecter parce qu'on a une dignité humaine au sens naturaliste, mais il y a des choses qui ne se font pas parce que le bon Dieu nous a créés avec une propreté, une colonne vertébrale. On se tient debout. On n'est pas un être fait pour ramper ou pour s'avachir. Bon. Et ce sera très net partout dans son œuvre. Donc, voyez-vous, je réponds déjà à des éléments d'objection, n'est-ce pas? Le mot dignité de la personne revient régulièrement chez elle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y aura un féminisme d'Edith Stein. Mais quand on lit les textes du féminisme d'Edith Stein, on en revient toujours au même problème. Quelle est la manière d'être dignement femme dans la société de perdition où nous sommes, hein? Donc, il faut lire cela sans cesse, je crois, à travers un prisme reformant. Mais vous me direz, c'est mon opinion et je la partage, et peut-être peut-on analyser les choses différemment. Il faut toujours se méfier des anticipations. À 7 ans, dit-elle, il n'y avait presque plus d'explosion de colère en moi. Et j'acquérais déjà tôt une si grande maîtrise de moi-même que je pouvais presque sans combat garder le même calme. Je ne sais pas comment ça s'est réalisé, mais je crois avoir été guéri par la répulsion et la honte, toujours la dignité, que je ressentais en présence des colères des autres, et par le vif sentiment d'un manque de dignité de se laisser aller de la sorte. Ainsi, peu à peu, mon monde intérieur devenait plus clair et lumineux. Bon, vous voyez par ces réflexions qu'elle fait quand elle est d'âge mûr et convertie, que avant même d'être une philosophe, c'est une psychologue. Je crois que ce serait se méprendre de voir d'abord dans Edith une philosophe qui, bon en allant, va essayer de greffer une mystique sur sa philosophie. C'est une introspective. Hein. Et ça peut expliquer pourquoi la phénoménologie maintiendra sa marque sur elle, j'allais dire à son corps défendant, même quand elle rencontrera le thomisme. D'ailleurs, on verra bien, les premières études qu'elle fait, c'est la psychologie pure. Elle s'inscrit hein, à l'université de Breslau, l'actuelle Wroclaw, hein, allemand et maintenant polonais. Elle s'inscrit d'abord en psychologie, c'est ça qui l'intéresse. Et elle sera très déçue quand elle sera jeune étudiante par le fait qu'elle tombe sur une psychologie du comportement, le behaviorisme comme on dit en anglais, qui est uniquement la psychologie de laboratoire, qui a son intérêt d'ailleurs dans son œuvre, et c'est pas ça qu'elle cherchait. Elle cherchait une psychologie qui soit finalement une introspection des autres. Elle est intelligente, une intelligence époustouflante, une intelligence qui, là ça revient avec, c'est un leitmotiv qui revient dans les témoignages de tous les gens qui l'ont croisée, une intelligence écrasante. une intelligence qui mettrait mal à l'aise si elle n'était pas d'une humilité acquise ou spontanée qui rassure. Hein. Toute ma famille m'appelait Edith l'intelligente. Cela me causait beaucoup de peine, parce que mon interprétation en était que je tirais vanité de mon intelligence, et que je n'étais que intelligente. Alors que j'avais compris dès ma tendre enfance, c'est intéressant aussi, le nombre de choses qu'elle prétend avoir compris dès son jeune âge. Hein. J'avais compris dès ma tendre enfance qu'être bon importait beaucoup plus que d'être intelligent. Mais il n'empêche que c'est une des choses qui fascinera le machisme philosophique des années 30, quand elle dira par exemple au colloque de Juvisy, sur la phénoménologie, tout le monde, à commencer par Maritain, sera ébarnouflé de voir une femme qui peut soutenir des allocutions et des colloques et des interventions à un niveau d'égalité avec les plus grands thomistes de l'Europe néo-thomiste. Bon. Cette intelligence qui se double en plus d'une capacité d'apprentissage phénoménale. La différence de ses sœurs, des frères et sœurs, les cinq aînés ont été en école juive et ont appris donc l'hébreu à l'école, comme les yeshivot ou les Talmud Torah, enfin les différents noms qu'on peut leur donner. Les deux dernières, après la mort du papa, ça ne s'est pas fait. Donc elle a appris l'hébreu sur le tard, mais elle a appris aussi l'allemand, excusez-moi l'allemand, c'est en maternelle, elle a aussi appris l'espagnol, l'italien, le français qu'elle parlait parfaitement, le latin, le grec, hein, c'était une polyglotte. Hein. Et en plus une historienne, une littéraire, etc. Bon, bref, une surdouée, ce qu'on appellerait aujourd'hui une surdouée. Donc, arrivé vers ses 18 ans, il s'agit de prendre 18-20 ans, de prendre un chemin, elle s'engage, comme je vous l'ai dit, dans les études de psychologie qui la déçoivent par leur caractère trop positiviste. Alors elle rentre dans une autre université, je passe très brièvement, hein, si vous voulez vous référer à la biographie, vous ferez vous-même, je cherche des éléments qui permettent de pister sa personnalité. Elle rentre à Göttingen où elle rencontre Husserl, le maître de la phénoménologie, le pontife, si j'ose dire, de la philosophie nouvelle et qui offre, disons-le tout de suite, cette particularité que tous ses étudiants sont juifs et que tous ses étudiants sont chrétiens, tôt ou tard. Bon, je schématise, c'est assez extraordinaire de voir comment cette recherche juive en milieu juif aboutira, et pour Edith Stein d'une manière notable, puisque ça ira jusqu'à la sainteté, à une exigence de conversion. Et si je vous disais le verbe de la conversion en commençant, je crois que l'une des voies de la conversion d'Edith Stein, c'est l'exigence intellectuelle, pour ne pas dire l'exigence spéculative. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle ne sera jamais une sainte populaire, c'est que c'est une sainte, je ne dis pas pour initier, parce qu'en plus si je dis ça, ça voudrait dire que je me considère comme un intellectuel, mais nous sommes preneurs des saints qui ont eu un cheminement charitable, des saints altruistes, des saints thaumaturges, des saints sociaux, des fondateurs d'orphelinats, des pensions, etc. C'est tout à fait normal. Ceux-là sont aimés, estimés, priés en famille, admirés par les petits-enfants. Son cursus à elle est un cursus purement intellectuel, purement spéculatif. C'est une pure universitaire. Et une pure universitaire qui arrive à la fois dans la logique d'une soif de compréhension. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très porteur médiatiquement. Ça n'est pas grand public, si j'ose dire. Donc, elle va vivre les années de ses 20 ans, de ses 30 ans, uniquement en milieu d'université, n'est-ce pas? Elle rencontrera un adjoint collègue, si j'ose dire, disciple-collègue de Husserl, la personne d'Adolf Reinhard, qui la fascinera beaucoup et qui s'est convertie au christianisme. Elle rencontrera une sœur la plus chère, Edwige Martius, qui sera sa marraine et qui se convertit au protestantisme. Max Scheler, là encore une fois, lui convertit au catholicisme. Bon. Les voies sont différentes, et ça c'est un thème qui est très, très intéressant. La recherche, très intéressante pour nous, apologétiquement, la recherche de la vérité philosophique ne débouche pas forcément sur l'intégrale vérité religieuse. C'est une passerelle, mais les options finales, peuvent être diverses et elles vont de la palette du luthéranisme, calvinisme, que sais-je, au catholicisme le plus pur. Hein. Mais ce que je retiendrai, toujours à travers les citations d'Edith, ce que je retiendrai du monde qu'elle fréquente autour de Husserl, indépendamment de la phénoménologie sur laquelle je me tendrai compte que je n'ai pas les compétences et puis on n'en sortirait plus, hein, c'est ce qu'elle dit ici. Les barrières des préjugés rationalistes au milieu desquels j'avais été éduqué sans le savoir, une famille juive pieuse rationaliste, c'est pas du tout contradictoire, les barrières tombaient. Et soudain, le monde de la foi se trouvait là devant mes yeux. Des êtres humains que je fréquentais chaque jour et que j'admirais, ils vivaient, au moins étaient-ils dignes d'une sérieuse réflexion. Hein? On peut donc être inintellectuel être un intellectuel et vivre d'une foi qui est totalement étrangère. Ça n'est pas antinomique. Hein? On n'est pas nécessairement un sot parce qu'on a la foi. Pendant la guerre, autre aspect de sa personnalité, la guerre de 14-18, elle, l'intellectuelle, elle, la fille qui rêve de diplôme, va se consacrer à des tâches d'infirmière. Elle va soigner les colériques, les malades du typhus, etc. Parce qu'il y a aussi cet aspect en elle d'une, on ne peut pas employer le mot charité, charité, j'allais dire naturelle, mais ce n'est pas la charité, bien sûr. Elle brûle du désir de servir le prochain. Et l'intelligence ne sert pas directement le prochain. Alors, sa maman lui interdit de se porter volontaire dans les maladreries, et elle refuse, c'est la première fois de sa vie, n'est-ce pas, qu'elle refuse d'obéir à sa mère. Elle tient absolument à payer de sa personne, physiquement, auprès des blessés et des malades. Et ce sera son premier contact avec ce qu'on peut appeler, j'allais dire pompeusement, non, le terme est sacrilège, la croix. Elle va découvrir la souffrance. Et ce n'est pas anecdotiquement qu'elle s'appellera, bien sûr, Thérèse Bénédicte de la Croix, hein. C'est vraiment le choix d'une vie, le choix providentiel d'une vie. Elle découvre que la souffrance et la mort ne sont pas un à côté de la vie humaine, mais sont une partie essentielle de notre cheminement. Elle le découvre donc quand elle est aide-soignante donc des malades et des blessés de guerre, elle découvre à l'occasion de la mort, c'est un passage qu'elle insiste beaucoup dans sa vie, la mort d'Adolf Reynard, qu'elle aimait beaucoup, qu'elle admirait beaucoup. Elle rend visite à sa veuve et elle s'attend à un effondrement complet de sa veuve, qui était chrétienne. Et elle découvre dans la douleur muette de sa veuve une sérénité extraordinaire qu'elle ne soupçonnait pas. Et elle dit, et ça c'est très intéressant aussi, parce que ça confirme parfaitement ce que l'on sait de la vie quotidienne juive, cette vie juive qui n'est pas forcément criée sur les toits. Hein, mais dans la vie juive, dit-elle, il est normal, quand il y a un deuil, de crier, de se lamenter, de s'arracher les cheveux, d'être inconsolable. Il faut une impudeur pour montrer qu'on a du chagrin. Et elle découvre d'un seul coup que l'on peut garder justement cette dignité extraordinaire, cette pudeur de l'épouse délaissée par la mort de son mari. Et pourquoi? Parce qu'il y a la croix. Elle ne subodore, elle ne comprend pas parfaitement, bien sûr. La croix permet d'offrir, de sublimer une souffrance qui autrement doit s'épancher, j'allais presque dire, au niveau animal, en quelque sorte. Hein. Et ça, ça la frappe énormément, énormément. Dans les années 1916-1918, elle va accéder au rang enviable et pompeux, mais qui n'est en fait qu'une succession de corvées, d'assistante d'Edmund Husserl. Hein, elle va être l'assistante du grand philosophe. En quoi ça consiste d'être assistante? Elle dira qu'elle espérait au début vraiment l'assister, c'est-à-dire discuter avec lui, mettre au point les problématiques, l'aider dans son cheminement, et mettre en ordre la pensée même du maître en train de mûrir dans un colloque et un dialogue permanent. En réalité, malgré l'affection sans borne qu'elle a pour Husserl et l'affection que Husserl a pour elle, dès qu'il aura lu le premier jet de sa thèse, en réalité, elle va passer plusieurs années à classer de la paperasse. Le maître écrit absolument à jet continu, ça n'a ni queue ni tête, et il lui dit classez ça, rangez ça, et très souvent, ce qui est encore plus horrible pour une intellectuelle et une pauvre femme qui peut y voir un complexe machiste, brûlez-moi cela. Très souvent, il lui demande de brûler ce qu'elle avait classé la semaine précédente en disant on n'a plus d'intérêt, c'est idiot, et ça ne débouche sur rien. Et elle remplira ce rôle avec un mélange d'affection et de déception. Et je crois que c'est une banalité mystique, enfin une banalité de la vie spirituelle. Ce sont les déceptions qui conduisent à la sainteté. Ce sont les événements qui ne marchent pas, qui font que l'on va là où Dieu veut que l'on aille. En réalité, sa vie est une succession de ratages. On verra tout à l'heure aussi ratage sentimental. Elle aurait bien aimé se marier. Elle aurait bien aimé se marier, cette future carmélite. Et elle a eu un sentiment pour un de ses condisciples, Hans Lips, qui n'a pas pensé à elle, puis qui pensera à elle plus tard, mais comme elle le dira elle-même, mon cœur est déjà pris par le Christ, bien sûr. Bon, elle ne sera jamais la mère de famille qu'elle aurait voulu être, elle qui a tellement admiré sa propre mère. Bien. Elle ne sera jamais universitaire. Toutes les portes se fermeront, notamment à cause du nazisme. Bon. Elle ne sera pas comme elle le voudra, carmélite au moment où elle voudra l'être. Et à chaque fois, elle découvrira, et c'est pour cela qu'elle s'appelle Bénédicte de la Croix, elle s'apercevra qu'il n'y a que dans le mûrissement de la déception continuelle, n'est-ce pas, que l'on devient quelqu'un. Hein. Ceci est, je crois, essentiel pour éviter, je vous dirai tout à l'heure, une interprétation juive de sa figure, c'est l'une. C'est, vu de l'extérieur, on comprend ce qu'un intellectuel juif peut penser de nous. Hein. Bon, j'oubliais une chose qui me paraissait évidente, je ne l'ai pas dite. Elle perd la foi autour de 13-14 ans, elle le dit volontairement. Hein. Chez ma sœur Else, qui n'avait pas la foi, mon mari n'avait pas la foi, j'ai cessé volontairement de prier. Je suis entré dans un athéisme volontaire et conscient parce que j'avais décrété que ça n'avait pas de sens. Point. Donc, nous sommes dans une période où elle est une athée au moins pratique, sinon théorique. Hein. On ne rentrera pas dans la distinction subtile entre agnostique et athée. Mais d'un autre côté, elle fréquente continuellement des chrétiens puissants, des juifs qui vont se christianiser, des chrétiens qui sont déjà protestants, qui rêvent de catholicisme, et puis un maître Husserl, je ne parle pas de phénoménologie ici, et en plus je répète, ça dépasse mes compétences, un Husserl qui leur dit continuellement, le premier Husserl, n'est-ce pas, le réel, les phénomènes sont issus du réel, c'est le réel que vous devez appréhender, savoir ce qui se cache derrière, n'est-ce pas, et non pas être qu'ancien. Et elle, ce qu'elle voit, c'est que ce réel, prétendument retrouvé dans la phénoménologie, fait des gens des chrétiens. Au nom de cette recherche de la réalité, voici des gens qui ne croyaient à rien, ou qui étaient juifs vainement de mort, et qui se mettent à à donner leur vie à quelqu'un qui, alors là, du coup, ne tombe pas sous le sens, hein, le Christ mort et ressuscité. Et il est évident qu'intellectuellement, c'est un défi, n'est-ce pas ? Si tant de gens sages et qu'elle admire se mettent à épouser la cause d'un Christ qu'elle ne voit pas, comment peut-on continuer à avoir une attitude logique et cohérente du point de vue philosophique ? Donc, elle s'intéresse à ces questions religieuses, elle s'intéresse un peu aux écrits chrétiens, elle raconte qu'elle a été très frappée par la traduction du Notre Père en vieil allemand, la traduction d'une fille là, qui est très connue, et qu'elle a un peu fréquenté les évangiles, elle fréquente aussi Sainte Thérèse d'Avila. Les écrits s'intéressent à Villa de ci, de là, elle butine. Elle est intéressée surtout par les aspects introspectifs, si vous voulez, les aspects de témoignage. Bon. Jusqu'au jour de l'été 1921, où chez son ami Edwige Martius, je lui laisse la parole, n'est-ce pas, ses amis, Edwige et Conrad, étaient sortis, elle rentre dans la bibliothèque et elle prend un livre au hasard. Il n'y a pas de raison de penser qu'une femme aussi exigeante, n'est-ce pas, mythifie et reconstitue artificiellement son passé. Hein. Elle a dit, je pris au hasard un livre volumineux dans la bibliothèque, intitulé « Vie de Sainte Thérèse d'Avila » écrite par elle-même. Je commençais à le lire, fus aussitôt captivé et ne m'arrêtais plus avant la fin. Lorsque je fermais le livre, je me dis, ceci est la vérité, point. Et à cette seconde, de son propre avis, elle a voulu à la fois être catholique et carmélite, indissociablement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été d'abord convertie, puis ensuite tentée par la vocation carmélitaine. Ça a été consubstantiel. Hein. Lisant le témoignage de Sainte Thérèse d'Avila sur elle-même, elle a compris que la vie n'avait pas de sens pour elle personnellement si elle n'était pas carmélite. Du jour au lendemain, elle se rend chez un libraire et elle achète un missel et un catéchisme. J'insiste sur ce point parce que très souvent, il m'arrive de discuter avec des lycéens ou des jeunes étudiants en recherche, comme on dit, et la réaction est toujours la même. Je cherche la foi, alors je me suis acheté une Bible. Je lis les évangiles, alors quand ils lisent pas le Deutéronome ou le Lévitique. Bon, et c'est un bout de 6 mois d'être toujours en recherche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intuition à la fois surnaturelle et logique, intellectuelle. Elle découvre que Sainte Thérèse dit la vérité d'une manière immédiate. Donc, logiquement, elle va à la source de la vérité, c'est le catéchisme du point de vue intellectuel et le missel du point de vue pratique. Ça ne fait ni une ni deux. C'est d'une logique parfaite. Rien que cet exemple-là, si vous voulez, suffit à éliminer toute idée d'une possibilité de suspicion sur sa conversion. Un juif aurait acheté une Bible, ou réacheté une Bible, peu importe, je veux dire, un juif par définition une chenille, et s'y serait plongé. Non. Bible, missel et catéchisme. Elle peut passer son catéchisme, elle se met à assister du jour au lendemain à la messe, comme ici, tiendra toute sa vie bien sûr quotidienne, pour voir, pour être dans le monde dans lequel était Sainte Thérèse d'Avila. Et elle va voir le curé du village quand elle a potassé son catéchisme avec la facilité intellectuelle qu'elle a. Elle lui demande d'être baptisée. Le pauvre curé absolument interloqué de la paroisse de Bergzabon, il dit, mademoiselle, on ne se convertit pas comme ça. Interrogez-moi, il l'interroge, elle est incollable. Alors à ce moment-là, elle accepte de la baptiser, et elle sera baptisée le 1er janvier 1922. L'évêque autorisera, c'est dire la séduction spirituelle qui émane déjà d'elle, l'évêque autorisera une protestante à être sa marraine, justement, Edwige Martius, en raison du fait qu'elle est la cause matérielle de sa conversion. Et elle aura comme manteau de baptême le manteau de mariage blanc de sa marraine, et qui servira ensuite comme manteau de baptême de sa sœur, Rosa. Elle est ensuite confirmée, bien sûr, à Spire, le 2 février 1922, et elle annonce très rapidement sa conversion à sa mère, qui, dit-elle, pleure, et à chaque fois c'est le même schéma, sa mère ne comprend pas. Et je crois que là, encore une fois, il faut bien comprendre ce qui peut paraître incompréhensible. Entre le judaïsme et le catholicisme, ce n'est pas un fossé, c'est un abîme. C'est un abîme, pas tellement doctrinalement, je veux dire bien évidemment doctrinalement, mais un abîme de mentalité. Sa maman et ses frères et sœurs, sauf Rosa, ne comprennent pas qu'on puisse changer d'univers. À la limite, serait-il un croyant, quand on est juif ou on est juif, on ne va pas prendre sa pâture chez les autres, chez l'autre, avec un grand A, dans l'altérité, si j'ose dire. Et ce sera le supplice de sa vie, cette incompréhension de sa mère, sur laquelle je reviendrai plusieurs fois tout à l'heure. Et c'est la raison principale pour laquelle elle ne peut pas se faire carmélite. Alors là encore, mais enfin, si on veut, on le peut, il n'y a qu'à vouloir. Le boulot lui demande de rompre les attaches, n'est-ce pas, et celui qui aime son père ou sa mère ou plus que moi, etc. Eh bien, ce sont les autorités religieuses qui lui interdisent. Tous ces directeurs spirituels, le curé, puis l'abbé Walser, le bénédictin, puis l'évêque, etc., lui disent, n'entrez pas en religion, il y a votre mère. Ça pose un problème philosophique un peu titillant quand même sur ce qu'on appelle le devoir d'État. Vous ne pouvez pas lui faire cela. Alors, elle obéira, et c'est déjà la racine de l'obéissance qu'elle aura dans la vie religieuse, bien évidemment. Donc elle continuera, elle trouvera une voie moyenne, elle va être professeure laïque chez Dominicaine de Spire. Alors je lis quelques témoignages, pour que le temps passe vite, de ses élèves. J'avais 17 ans. Le docteur Edithstein, je suis passé sur le fait qu'elle a passé sa thèse, elle est docteur, n'est-ce pas? Le docteur Edithstein nous enseignait l'allemand. Mais en réalité, elle nous apprenait tout. Nous étions encore très jeunes, mais personne ne pourra oublier la fascination de sa personnalité. Chaque jour, nous la voyions pendant la messe s'agenouiller sur son prier dans le sanctuaire. Elle nous laissait pressentir ce que signifie l'harmonie parfaite entre la foi et la vie concrète. Déjà, par sa seule attitude, elle était l'exemple pour nous à cet âge critique. Bon. Et toutes ses élèves diront cela. Une de ses élèves dira que la première fois qu'elle l'a vue traverser la cour de récréation avec ses livres sous le bras, déjà, elle a compris que c'était une sainte, et que déjà, elle a compris qu'elle avait tout à apprendre. D'autres élèves disent qu'on n'a jamais eu le début d'un commencement, même pas de chahut, de bruit dans la classe. Les élèves étaient suspendus à ses lèvres, elle, le professeur de 25-30 ans. Le soir, il venait dans sa chambre, s'asseyait en rond, n'est-ce pas, à une dizaine autour d'elle, et parlait avec elle, et chantait pour elle, et c'est un rapport de maître à disciple qu'on ne trouve plus, enfin, qui a quelque chose de mythique, de socratique. Bon. Et d'où cela vient-il? De sa personnalité, bien sûr, mais d'une sainteté foudroyante. Instantanément, quand elle s'est convertie, il n'y a pas eu de moyen terme, elle a été absolument rayonnante, rayonnante au cœur, rayonnante à l'église, rayonnante sur le lieu, rayonnante dans ses cours. Elle est même chargée, d'une manière informelle, de la formation des novices dominicaines de Spire. Elle la laïque. Bon. Alors, elle commence en même temps à s'intéresser à la scolastique, à la théologie chrétienne, ce qu'elle n'avait jamais fait avant dans un monde de pure philosophie. À la demande d'un certain nombre de prêtres, notamment le père Prishvara, qui est un jésuite, elle commence à traduire d'abord les lettres du cardinal Newman, puis ensuite des questionnaires disputatés de vérité, les questions disputées sur la vérité de Saint-Thomas d'Aquin. Elle rentre dans un monde qui lui était totalement inconnu. Hein, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous feuilletez un bouquin terminal de philosophie aujourd'hui, le mot Saint-Thomas n'apparaît même pas. Même pas. Aristote encore. Bon, c'est à la mode. Ça n'existe pas. Donc elle découvre cet univers. Et puis elle commence à jouer un rôle de laïque qu'on ira engager dans la cité. Dans les années 28-30, elle fait des conférences sur le rôle de la femme, dans toute l'Allemagne, qui sont de plus en plus célèbres, de plus en plus écoutées, demandées, à la demande du public et des autorités religieuses aussi, ces conférences, n'est-ce pas? Le féminisme d'Edith Stein, je vous ferai faire une conférence là-dessus, puis en plus, ça n'avait pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça revient à dire? En quelque sorte, les femmes ont un rôle social, elles ont un métier, c'est comme cela. C'est comme cela, elle dit pas c'est bien, c'est mal, c'est comme cela. Donc il faut en prendre acte, et il faut qu'elle s'épanouisse, qu'elle reste chrétienne dans ce monde moderne qui a fait d'elle autre chose que ce qu'elles ont été au 19e, 18e, etc. Bon, bref, on peut prêter fin à la critique assurément. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ne fallait pas critiquer. Mais en tout cas, les pages les plus frappantes sur le féminisme, c'est trouver le temps de la prière, trouver le temps du recueillement, trouver le temps de notre journée, du don total, soyez d'une maternité continuelle. Et elle explique assez souvent que la femme se définit d'abord par sa maternité. Bon, voilà déjà un élément qui n'est pas féministe du tout. Maternité selon la chair, ou selon l'esprit, ou selon la pure mystique, de toute façon, c'est le rôle de la femme dans le monde. Bon, on peut y voir une théologie mariale, j'allais dire, sans pousser très loin le paradoxe. Elle continue en même temps ses travaux de pure philosophie phénoménologiste. Elle découvre saint Thomas, mais elle est encore phénoménologue, alors elle essaie de concilier les deux. Elle est invitée en France en 1932 par les néotomistes, n'est-ce pas, Juvisy et Jacques Maritain sera très admiratif. Bref, une vie intellectuelle. Elle ne veut pas d'elle au Carmel. Pauvre femme, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle suit la loi qu'on lui impose. Alors elle tente plusieurs fois une habilitation universitaire, un poste de maître de conférence. Elle sera prise comme maître de conférence à l'Institut catholique des sciences pédagogiques de Münster. Bon, et puis elle en sera ensuite exclue par les lois anti-juives. À chaque fois, les portes se ferment. À chaque fois. Alors à chaque fois, elle redemande aux autorités, pourrais-je maintenant être carmélite? Et on lui répond, ce qui est horriblement paradoxal, non, vous faites tellement bien dans le monde qu'il ne faut pas le quitter. Donc c'est un peu faire de café. Elle reste dans le monde parce qu'on lui impose, elle s'y donne de son mieux, et s'y donne de son mieux, on est tellement content, on lui dit l'esthésie, alors qu'elle ne rêve qu'une Carmel. Et toujours l'argument de sa mère. Seulement, le temps devient de plus en plus trouble, arrivé d'Adolf Hitler au pouvoir, les années 33-34, début des lois anti-juives, toutes les portes universitaires se ferment, et à ce moment-là, elle commence à sentir que sa mère ne verrait pas d'un mauvais œil qu'elle se réfugie dans une communauté qui peut paraître encore intouchable. On ne violente pas encore les congrégations cloîtrées. Mais elle doit patienter. Hein. Ce que les conseillers spirituels m'assuraient à chaque fois, je vais patienter à cause de ma mère. La longue attente était très dure. J'étais comme étrangère dans ce monde. Avant que j'accepte ma tâche à Münster, et même après le premier semestre, j'ai demandé avec insistance la permission de pouvoir rentrer dans l'ordre. Elle me fut refusée, à cause de ma mère et aussi à cause du rôle que depuis quelques années, je tenais la vie catholique allemande. Je me désinclinais. Mais maintenant, les murs qui me barraient le chemin, hein, les lois anti-juives, sa mère craint pour sa sécurité, les murs s'effondrent, dit-elle, mon activité avait pris fin, et ma mère ne peut être pas mieux le savoir dans un monastère allemand plutôt que dans une école d'Amérique du Sud. C'est ça où l'exil, bien sûr. Alors, le 14 octobre 33, elle rentre au Carmel de Cologne. Après les démarches que je vous passe, elle est acceptée au Carmel de Cologne. Et le dernier jour est bouleversant. La veille de son départ, Edith accompagne sa mère à la synagogue. Un passage qui est célèbre, qui est connu. Chez les admirateurs comme chez les adversaires d'Edith, n'est-ce pas? Elle assiste à la synagogue comme elle a continué à le faire avec sa maman. Une vieille femme de 80 ans qu'elle accompagne, elle lit les psaumes en même temps que les fidèles. Oui, mais dans son missel romain. C'est très intéressant. Bon. La mère lui demande, n'est-ce pas, le sermon n'est-il pas beau? Si. Alors, en tant que juive, vous pouvez également être pieuse.
Bien sûr, dit-elle à sa mère, s'il ne m'a pas appris autre chose. Et la mère désespérée, mais pourquoi l'as-tu connu? Je ne veux rien dire contre lui. Il a pu être très bon, mais pourquoi s'est-il fait Dieu? Et le soir, Edith raconte, l'amour cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer. Je me poussai derrière sa chaise et reposai sa tête au cheveu blanc contre mon cœur. Ainsi, nous sommes restés longtemps avant qu'elle n'accepta de se coucher. Je conduisis ma main à sa chambre et l'aidai à se déshabiller, ce qu'elle accepta pour la première fois de sa vie. Et, 3 jours après, elle rentre au Carmel, et dans le train qui l'emmène à Cologne, elle dit que c'est une libération. Une croix libératrice. Elle rompt toutes attaches. Sa maman ne lui écrira plus jamais. Hein? Sa mère refuse d'écrire de répondre à ses lettres qu'elle envoie du Carmel chaque semaine. Sauf quelques mots à la fin de sa vie. Mais, en même temps, elle est heureuse parce qu'elle a rompu toutes les attaches avec un homme qu'elle ne comprenait plus. Ce novice, ce Carmel, ce qu'on dit les sœurs qui l'ont connu, puisque nous parlons de sainteté, c'est un cri unanime. Toutes celles qui l'ont croisé comme élève, comme collègue, comme consœur, disent c'était une sainte. Elle resplendissait la sainteté. Et notamment, dans sa simplicité, à se mettre à des tâches matérielles, n'est-ce pas, les sillages, le passage, etc., qu'elle n'avait jamais faites, auxquelles elle répugnait en tant qu'intellectuelle, et qu'elle s'est pliée de bonne grâce. Elle était la première à rire aux éclats de ses erreurs, de ses fautes, de ses manquements, et à accepter les réprimandes prévues par la règle. Et lorsqu'elle quittera le Carmel de Cologne pour fuir en Hollande, les religieuses pleuraient d'émotion en la quittant, n'est-ce pas, cependant qu'elle les quittait. Sa mère va mourir le 14 septembre 1936, le jour d'une des cérémonies officielles des étapes de ses vœux, n'est-ce pas? C'est assez impressionnant ce qu'elle dit, encore comme témoignage. Je ne dis pas qu'un saint est forcément infaillible dans ce qu'il ressent, mais en montant à l'autel pour renouveler ses vœux, elle dit « Soudain, j'ai senti ma mère présente près de moi ». Et de fait, elle est morte à cette heure-là, précisément. Et certaines âmes bien intentionnées sont venues lui dire tout de suite « Mais votre mère s'est convertie avant de mourir, à n'en pas douter. » Mais Edith est une femme d'exigence intellectuelle. Elle n'aime pas le mensonge, ni intellectuellement, ni dans la foi. Elle répond et elle écrit « La nouvelle de la conversion de ma mère est une rumeur sans aucun fondement. » Jusqu'à la fin, ma mère restait rigoureusement fidèle à sa foi. Depuis sa petite enfance jusqu'à sa 87e année, sa foi et sa confiance inébranlable dans son Dieu ont subsisté et se sont manifestées jusque dans sa dernière agonie. C'est pourquoi je suis sûr, voilà, c'est là que je reviendrai dans la problématique de Edith Stein, juive ou chrétienne. C'est pourquoi je suis sûr qu'elle aura rencontré un juge très miséricordieux et qu'elle est maintenant mon aide la plus fidèle pour qu'à mon tour je puisse parvenir au but. Et même quand Husserl mourra, Husserl sur son lit de mort, demandant à son infirmière de noter très vite ce qu'il vient de voir et puis disparaissant, rendant son dernier soupir, elle a la conviction que Husserl a eu une intuition finale et elle dit « Je ne me fais pas de soucis pour mon maître bien-aimé. J'ai toujours été très loin de penser que la miséricorde de Dieu vous laisse se lier aux limites de l'Église visible. Qui cherche Dieu cherche la vérité, qu'il en ait conscience ou non. Hein? » Et inversement, qui cherche la vérité cherche Dieu. Donc, mort de sa mère, et sa sœur Rosa, que j'avais laissée de côté, est libre maintenant de se faire baptiser. Ça peut paraître incompréhensible, on peut se dire, mais enfin, on ne peut pas avoir la foi et ne pas franchir l'étape du baptême. C'est vrai, dans notre normalité d'état libéral, sans clivage culturel peut-être, Rosa n'est pas allée jusqu'au baptême pendant des années, parce que sa mère en serait morte au moins, familialement. Et elle peut enfin baptiser. Et la Providence fait un acte de condescendance gracieuse envers les deux sœurs qui est absolument extraordinaire. Edith est cloîtrée, ne peut pas sortir. Elle se casse la cheville et le poignet en tombant dans l'escalier du Carmel et elle doit être hospitalisée à l'extérieur en clinique. Et c'est là que précisément sa sœur vient la rejoindre au moment où elle demande le baptême. Et elle pourra assister au baptême de sa sœur hors de la clôture, hein, grâce à cet accident. Et sa sœur Rosa, qui la rejoindra plus tard en Hollande. Bon, je passe très vite sur les dernières étapes qui sont, j'allais dire, qui appartiennent à l'histoire des historiens qui ne m'intéressent pas. Hein. Les persécutions vont s'accroître, l'inquisition gestapiste vient régulièrement vérifier au cours des élections qui est arien, qui n'est pas arien au couvent. Mes sœurs et celles que vous voyez, finalement, elles sont obligées d'avouer que Edith n'est pas arienne, elle est inscrite comme telle sur la liste. Le moment vient où elle doit fuir en 38, n'est-ce pas? Elle doit fuir le Carmel d'Echt et aller en Hollande. En Hollande, le scénario se renouvellera, mais seulement en 42. À la suite d'une protestation officielle des évêques allemands le 26 juillet 1942, lui dans toutes les églises, la commune autour se fâche. En fait, le Gauleiter, n'est-ce pas, c'est ça, se fâche et ordonne une rafle exclusive des juifs chrétiens, hein, des milliers, on est impressionné par les chiffres, des milliers de religieux et religieuses d'origine juive vont être déportés, rien que pour l'Europe du Nord, la Hollande et les frontières de l'Allemagne. Hein. Et elle partira dans cette rafle. Et on a quelques témoignages, des camps de transit. Et c'est la même image à chaque fois. Les témoignages, c'est une Edith qui a gardé son habit, ainsi que sa sœur Rosa, qui était portière, elles ont gardé leur habit. Une Edith qui soigne les enfants, qui lave les enfants, qui console les enfants, qui nourrit les enfants, pendant que les mamans juives sont effondrées, catastrophées. Le monde s'effondre pour elle. Elle porte la croix des autres comme la sienne. Une Edith douloureuse, mais sereine, et qui disparaît dans un convoi pour Auschwitz. Et elle sera béatifiée le 1er mai 87 et canonisée le 11 octobre 98, n'est-ce pas, avec une sorte de no man's land dans lequel, là c'est un autre problème, hein, je laisse les commissions d'enquête faire leur travail. Bien. Alors, pourquoi cette vie d'Edith Stein interpelle-t-elle, n'est-ce pas, la conscience juive, la conscience chrétienne, la conscience post-conciliaire et la conscience traditionnaliste au point qu'elle soit une pomme de discorde, conformément à son nom de Thérèse Bénédicte de la Croix, bénie par la Croix, n'est-ce pas, la Croix qui n'est pas effectivement venue apporter la paix au monde. Je donnerai quelques, comme je l'ai annoncé, les points de vue. Bon. D'abord, vis-à-vis, je commence par Rome. Je crois à la sainteté d'Edith Stein, je crois à sa sainteté, non pas parce qu'elle a été canonisée, il y a des gens pour lesquels on a besoin de le savoir, en quelque sorte, administrativement, mais parce que tout le monde a dit qu'elle était une sainte, d'une manière unanime. Il n'y a pas l'ombre d'un commencement de dubium, hein. Il n'y a pas d'avocat du diable parmi ceux qui l'ont croisée. Ses pères spirituels, ses confesseurs ont dit qu'elle rayonnait la sainteté. C'est pour ça qu'elle est une sainte. Mais si Rome la canonise, c'est pas parce qu'elle est une sainte, c'est parce qu'ils ont besoin d'une sainte juive. Je suis peut-être très méchant, mais... Alors le bon Dieu s'en moque de ça, il avance ses pions pour des raisons que lui seul connaît. Alors Rome est enchantée d'avoir trouvé une espèce de trait d'union, n'est-ce pas? Et le battage médiatique autour d'une martyre juive et chrétienne, ce qui n'est pas exclusif pour la pensée post-conciliaire, et qui plus est à Auschwitz, qui permet à la fois d'aplanir le problème du carmel d'Auschwitz, les croix, le dialogue le judéo-chrétien, le décret Nostra Aetate, bref, dans un micmac pas possible, Rome a trouvé expédient. Excusez-moi, c'est une analyse très naturaliste que je fais, hein. C'est pas évidemment très mystique. Rome a trouvé expédient et le Saint-Père a trouvé expédient de la porter sur les autels. Mais comme il est dit du grand prêtre, il ne savait pas qu'il prédisait, hein. C'est parce qu'il était le grand prêtre en exercice. Là. Donc, mais quand on lit par exemple, je lisais sur internet le témoignage, le texte biographique diffusé par le Vatican sur Edith Stein, lorsqu'elle dit elle-même dans ses notes, n'est-ce pas, qu'elle meurt en expiation, elle s'offre en expiation pour le péché et la piété de son peuple, père le ciseau, le texte n'y est pas. La phrase précédente y est, la phrase suivante y est, mais il y a des points de suspension, ce qui en dit long, sur la politique vaticane. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes d'accord. Les biographies, au demeurant très honorables, celle d'Elisabeth de Miribel, qui est connue, n'est-ce pas, comme mort purifiée par le feu, qui a déjà 50 ans, celle qui est remarquable de Joachim ou Joachim Boufflet, une philosophe crucifié remarquable. De ci de là, il y a des petits éléments progressistes, notamment les quatrièmes couvertures, notamment les introductions. C'est obligé, on ne peut pas, il y a un passage obligé. Je ne suis même pas sûr que les auteurs agréent d'ailleurs ces analyses, mais on n'est pas publié à ce moment-là. Alors, il s'agit d'Edith Stein qui retrouve ses racines, mais non, elle n'a retrouvé aucune racine. Elle ne supportait pas l'antisémitisme, elle ne supportait pas le discours primaire anti-juif, et elle se fâchait. Elle se faisait très sévère dans ce cas-là. Mais elle était très sévère pour le judaïsme, dans lequel il n'y avait pas de vie. Hein. dans ce qu'elle n'y avait pas de foi, d'espérance, de joie, dit-elle. Une des choses qui l'a plus marquée dans ses souvenirs, dit-elle, l'un des premiers, parmi les multiples rencontres avec la foi catholique, c'est un jour, dit-elle, visitant une église, en tant que trésor d'œuvre d'art, j'ai vu une ménagère qui faisait son marché, posait son panier et s'agenouillait devant son sacrement. Et elle dit, j'avais jamais vu ça dans une synagogue. On ne vient pas parler à Dieu dans une synagogue. Il n'y a pas de colloque intime. Bon, des choses comme ceci prouvent qu'elle n'est pas juive, qu'elle ne l'est plus, à supposer qu'elle ne l'ait jamais été au sens mystique du terme. Donc, je passe rapidement sur la récupération œcuménique de Wittgenstein. Il faudrait plus de temps pour lire un certain nombre de citations que j'ai à faire. Elle n'existe pas. Par exemple, je vous en dis quand même quelques-unes, hein, sinon... dans la grande tradition carmélitaine, vous savez, on a des loisirs, si j'ose dire, artistiques, qui peuvent être poétiques, qui peuvent être de la peinture, qui peuvent être, et qui doivent être en même temps édifiants, etc. Et notamment le théâtre mystique, n'est-ce pas, Sainte-Thérèse de Lisieux a écrit beaucoup de pièces religieuses, de scénettes religieuses, et Wittgenstein a écrit, elle aussi, un dialogue théâtral autour d'Esther, hein, le personnage d'Esther. Et ce texte est très curieux parce que, en quelque sorte, elle est Esther. Enfin, elle intercède pour son peuple, mais pas auprès d'Assyrus, mais auprès du divin crucifié. Et ce qu'elle dit incidemment de son peuple prouve qu'elle n'est pas juive, elle est chrétienne, catholique. Parce que juive, vous me direz, il y a une logique dans son cheminement. Hein. Et voici par exemple ce que dit Esther, n'est-ce pas, à la fin de cette scénette, n'est-ce pas, parle de Dieu. Telle est sa volonté, c'est aussi la mienne. L'Église s'était épanouie, mais mon peuple, pour la plus grande part, demeura à l'écart, se tenant à distance de notre Seigneur et de sa mère, l'ennemi de la croix. Il erre de ci, de là, sans trouver le repos, objet de dérision, victime du mépris. Il en sera ainsi jusqu'au dernier combat. Mais avant que la croix ne devienne visible, au milieu du ciel, une nouvelle fois, et qu'Élie ne revienne rassembler tous les siens, le bon pasteur parcourt le monde en silence. Des profondeurs de l'abîme, ici et là, il sauve un annulé, elle-même bien sûr, la mettant sur son cœur, et d'autres continuent de marcher sur ses traces, tandis que là-haut, auprès du trône de la grâce, la mère intercède sans trêve pour son peuple. Elle cherche des âmes pour prier avec elle, car le Seigneur viendra manifester sa gloire seulement lorsqu'Israël l'aura découvert, et qu'il leur a été accueilli par les siens. Ainsi, ce second avènement doit être porté dans la prière. Bon, une phrase comme ça n'est pas une phrase écuménique, bien évidemment. Elle dit au moment de la persécution hitlérienne que c'est la malédiction de la croix qui est sur son peuple. Mais elle dit en même temps, n'est-ce pas, en parlant de Caïn qui persécute en quelque sorte Abel, malheur à qui porte la main sur Caïn, ça c'est une référence biblique, elle sait concilier, je crois, la compassion naturelle et charnelle pour son peuple avec la sévérité spirituelle qui fait qu'elle voit bien qu'il ne s'est pas converti. Bien. Mais c'est on entre dans le mystère. Alors, je dirais que la position de Rome ne m'intéresse pas. La date de la fête de la Shoah qui a été mise en même temps que sa date de fête, c'est n'importe quoi, je veux dire. Une fête catholique de la Shoah. Le souvenir, comment appelle-t-il cela, souvenir de la Shoah. Bon, ça ne m'intéresse pas, je ne me salirai pas les doigts à cela. Bien. L'attitude des Juifs est plus intéressante. Les médias juifs. Je ne sais pas ce qu'il en est du peuple juif profond, comme toujours, il ne demande jamais son avis. Je pense qu'il est absolument indifférent et qu'il ne connaît ni Wittgenstein ni David Adam, mais les intellectuels n'ont pas décoléré, n'ont pas cessé de décolérer. Pour eux, c'est une récupération scandaleuse qui est venue s'associer au Carmel d'Auschwitz et à aux croix d'Auschwitz, etc. Je vous dis quelques passages de ceux qui a le plus réfléchi à la question de la main tendue aux Juifs par Vatican II, qui est Raphaël Drey. Raphaël Drey est un universitaire, c'est un juriste qui fait beaucoup de la psychanalyse en même temps. C'est important à savoir cela. Bon. Alors lui, radicalement, considère que la conversion de Wittgenstein est une récupération cynique, machiavélique de Rome, hein, et qu'elle est née d'une avenue, parce que de toute façon, Edith Stein n'était pas juive. Hein. Si elle avait été juive, elle ne serait pas convertie. Un juif, dit-il, qui a étudié plus ou moins la tradition juive, ne peut pas se convertir. Il y a une certaine logique là-dedans, mais on comprend ce qu'il veut dire. Effectivement, on peut supposer qu'une carmélite, au bout de 40 ans de profession de religieuse, ne passe pas au judaïsme du jour au lendemain. Hein, c'est vrai. Bon. Donc, si elle avait été rabbin, peut-être qu'elle ne se serait pas convertie au catholicisme. Peut-être, encore que le pauvre rabbin nous a dit. Donc, c'est l'argument primaire, l'argument minable. Puisqu'elle s'est convertie, c'est la preuve qu'elle n'était pas juive, qu'elle n'avait rien compris à sa foi et qu'elle est allée chercher ailleurs ce qu'elle ne trouvait pas dans une famille où on ne lui a pas donné. Bon. À ce moment-là, je vais dire, qui est juif, hein? Si avoir une famille de 11 enfants, aller à la synagogue, bénir la table, respecter les fêtes, etc., ce n'est pas un embryon du judaïsme, qui est juif, hein? C'est se moquer du monde. Autre argument, n'est-ce pas, Edith Stein, comme Husserl, comme tant d'autres, je le cite, n'est-ce pas, se sont convertis au christianisme comme tant et tant de juifs depuis les Lumières, en payant leur prix, en payant du prix de cette conversion leur billet d'entrée dans la société des arts libéraux et de la pensée universitaire. L'argument est valable aussi en un sens, mais très méchant. Méchant pour les juifs. Parce que finalement, ça revient à dire schématiquement qu'ils sont sans foi ni loi, et que par arrivisme, ils sont prêts à tout abandonner, à trahir, à devenir des renégats, et qu'il ne faut pas attacher plus d'importance que cela à l'étiquette qu'il se donne pour entrer dans une société chrétienne. Mais moi, l'argument se retourne contre lui. Bon, deuxièmement, s'il connaissait un tout petit peu le cheminement intellectuel de Husserl et de Chang, il verrait qu'ils sont en recherche intellectuelle. Ils ne paient pas un billet d'entrée, n'est-ce pas, dans la société intellectuelle, qui les admet déjà suffisamment, je veux dire par là que même méprisés, ils ont des positions. Mais ce n'est pas ça le plus scandaleux. Le plus scandaleux, c'est la psychanalyse du personnage qui révèle une incompréhension totale de ce que peut être la croix pour un chrétien. D'abord, dès son plus jeune âge, Edith Stein révèle à quel point elle se trouvait en état transférentiel. Elle venait de son papa, donc ses premiers transferts les plus intenses se produiront sur des juifs convertis ou en voie de conversion, tel le couple des Conrad Martius, puis ensuite, n'est-ce pas, sur Husserl, etc. Donc voilà, on a tout compris, mais en plus son père, à l'âge de 2 ans, il était inévitable qu'elle se convertisse, puisqu'il fallait trouver un mal de substitution. Alors lui, il croit dur comme fer, M. Drahi, hein, et il y a des pages là-dessus. Et pour vous montrer qu'il s'agit bien de psychologie des profondeurs, qui essaie de fouiller, j'ai presque dit les poubelles de l'âme, hein. Voici un paragraphe un peu long. J'ai commencé à moins de quart. J'ai le droit à ma demi-heure. Bon, voilà, ce sera parfait. Je lis Raphaël Drahi, je répète, c'est un universitaire, il a encore récemment publié un autre livre sur les différentes tendances de l'Église, et il revient à nouveau, ce que je vous dis est 89, n'est-ce pas, et il a à nouveau remis cela en 99, 98, n'est-ce pas, là c'est tiré de la lettre ouverte au cabinet Lustiger, parce que j'ai oublié de dire que le pauvre Lustiger aussi est accusé de récupération, trahison, arnaque, SOS, etc. Donc, je lis ce qu'il dit. C'est déplaisant. Hein, je vous préviens tout de suite, c'est plus que déplaisant. Voici comment sa biographe reconstitue son état d'esprit lors de la montée du génocide. C'est du crucifix encore suspendu à la même place au-dessus de la table du servant de bureau qu'elle détenait déjà toute sa science. C'est Elisabeth de Miribel qu'il cite, n'est-ce pas? Et d'ajouter ce trait. Elle parlait peu, mais chacune de ses paroles portait car elle laissait des profondeurs du silence et de la prière. Comment oublier ce regard si grave, indicibulement douloureux qu'elle jetait sur le crucifié, le roi des Juifs, lorsqu'elle lisait à travers le déroulement des événements l'annonce d'une persécution raciale de plus en plus violente. Je l'entendis un jour qui murmurait « Oh, combien mon peuple devra souffrir avant qu'il ne se convertisse !» Et une pensée me traversa l'esprit rapide comme l'éclair. Édith s'offre à Dieu pour la conversion d'Israël. Bon, ça, c'est un témoignage d'une amie d'Édith, transcrit par tous ses biographes. Et retranscrit par Raphaël Drahi, commentaire de Drahi. Pénible témoignage. D'abord parce qu'il démontre à quel point un esprit qui se voulait aussi rigoureux que Einstein pouvait être subverti et corrompu par la théologie du déicide. Entre parenthèses, je n'ai pas vu où est présente la théologie du déicide. Il y a la théologie de l'incrédulité. C'est lui qui ne sait pas lire. Bon. Et combien cette théologie était directement. Et combien cette théologie était directement perverse et indirectement meurtrière. Perverse, suivez bien, il faut s'accrocher. Perverse, puisqu'elle incitait certains juifs à s'offrir en prétendu sacrifice expiatoire. Expiation fantasmatique et suicidaire parce que sans objet, comme de l'ailleurs reconnaître a posteriori la déclaration conciliaire de 65, d'un seul coup le juif devient chrétien quand il a un texte. Alors, donc,
l'idée de victime expiatoire est déjà perverse en elle-même, et elle est perverse comme le démontre la théologie de Vatican II qui a répudié le sacrifice et ensuite dans la Sainte Messe, comme on le sait. Il y a une logique là-dedans. Hein. Je ne sais pas lequel des deux, entre parenthèses, est le plus chrétien, mais pour l'instant c'est lui, il n'est pas faux pas se considère. Donc, c'est pervers parce qu'il y a le prétendu sacrifice expiatoire, à commencer par celui du Christ, et bon entendeur. C'est une expiation fantasmatique et suicidaire parce que sans objet, comme l'a déclaré le Concile, mais meurtrière aussi parce que certains chrétiens, c'est l'idée, au lieu de porter assistance au peuple juif dans ces moments de détresse et de ténèbres, préférait s'adonner à l'exégèse d'une théologie sadique, croyant percevoir dans la souffrance et l'angoisse d'autrui les preuves de sa vérité. C'est un sadigo, je suis désolé. Edith Stein, comme tous les chrétiens, comme tous les convertis de cette époque, n'est-ce pas, juifs ou chrétiens, peu importe, ont œuvré pour les juifs, ont plaint les persécutés, ont sauvé, protégé. Personne n'a jamais été dire aux petits enfants qu'on va arrêter, à la personne qu'on envoie en camp, c'est très bien comme ça, tu expies, tu verras, tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre, et puis en plus tu dois jouir intérieurement du sentiment d'expiation. C'est lui qui fait dans le fantasme. Hein. Parce que derrière cela, il y a une lecture de, et précisément, de la croix chrétienne. Si on analyse ce passage à tête reposée, en réalité, ce qu'il a dans le collimateur, Raphaël Drey, c'est son droit, mais c'est mon droit de le critiquer. C'est l'idée même que la croix puisse avoir un sens. Eh bien, Saint-Paul avait raison, folie de la croix. Quand on dit « chaque regard de crucifix et les genoux font victime expiatoire », c'est une perverse et une sadique, et en plus une meurtrière, parce que le pervers sadique est évidemment un meurtrier, ne serait-ce que par l'émulation qu'il fait naître. Moi, j'estime que parler ainsi, c'est montrer une incompréhension radicale du christianisme, radicale des racines même du christianisme. Alors, qu'on ne cite pas à ce moment-là les textes de Vatican II avec les mêmes gourmandes, puisqu'il ne comprend pas le béaba du catéchisme. Alors, effectivement, Edith s'est offerte continuellement pour son peuple, tout en disant, je pense que dans le monde, beaucoup d'autres s'offrent comme moi. Et tout en disant, il faut lutter, combattre, ne pas voter pour Adolf Hitler. Elle essaie de convaincre ses sœurs de ne pas s'abstenir, etc. Où est la logique meurtrière? Bien. Alors, vous voyez, je vous ai mis juste un petit témoignage, mais dans l'Arche, par exemple, un mensuel juif, etc., j'ai trouvé des choses bien claires. J'ai trouvé, par exemple, une citation, elle s'est réfugiée dans un Carmel pour échapper au sort de ses frères, hein, c'est une lâcheuse. Mais elle dit elle-même, dès qu'elle rentre au Carmel, je sais très bien qu'elle n'échapperait à rien du tout. Bon. Ils disent, dans des articles de la grande presse juive française, que les carmélites hollandaises ont été très heureux de se débarrasser d'elle pour empêcher les représailles, d'être vilainies de cet ordre-là, alors que les sœurs pleurent quand elles le quittent. Bon, à ce niveau-là, si vous voulez, je n'ai rien trouvé de plus glorieux, vous m'excuserez. Hein. Je sous réserve d'inventaire, je dis ça pour les renseignements généraux, il est fort possible qu'un certain nombre de juifs aient une grande admiration pour Edith Stein et la comprennent profondément, mais qu'ils se manifestent à ce moment-là, qu'ils parlent haut et clair. Les catholiques fidèles, bien, chat échaudé craint l'eau froide. Comme je l'ai dit au début, c'est suspect, c'est louche. Il y a quelque chose de pas net dans l'arrivée sur les autels d'une sainte Edith Stein présentée comme à la piété des fidèles au moment même, effectivement, du dialogue judéo-chrétien qui, lui, est allé théologiquement très très loin, extrêmement loin. On peut considérer que la voix VOX officielle des autorités romaines, à travers notamment le secrétariat pour les dialogues avec les juifs, là, Gamal Cassini, on peut considérer que leur théologie est absolument hérétique. Elle l'est formellement. Ce n'est plus seulement une interprétation. Hein. Bon, bref, passons. J'allais dire, la suspicion légitime ne doit pas nous rendre injustes envers l'objet utilisé, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, il y a quand même un certain nombre de choses qui font problème à propos d'Edith Stein simple. Premier point, commençons par les choses les plus simples. Il y a des catholiques fidèles qui réputeront sa non-sainteté, j'allais dire, pour des raisons purement administrativo-canonique. Hein. Le pape canonistro béatifie trop, ce qui est parfaitement exact, donc c'est un des indices multiples qui n'est plus pape et que ces canonisations sont invalides parce que c'est Wojtyła qui parle. Je ne rentre pas dans le débat, mais vous comprenez, je ne veux pas biaiser. Je pense qu'un certain nombre de gens hostiles à Edith Stein seraient aussi hostiles à n'importe quel autre saint, formellement parlant, parce qu'ils considèrent qu'il y a une
dans une optique plus ou moins sédévacantiste, il y a une vacance, il y a une vacance de Rome. Donc Rome peut canoniser ou béatifier n'importe qui, ça n'a aucun intérêt. Bon, ce n'est pas ma position. Je ne dis pas que je respecte la position que je viens d'évoquer, je ne vous en parle pas. Le père Pio qui va être béatifié, le pauvre homme, si ça devient un motif d'invalidité parce qu'il n'a pas de chance, il est tombé dans la fournée des saints du XXe siècle. Par contre, pour le père Kolb, nous dirons Saint-Maximilien Kolb, alors que lui aussi a été canonisé à propos de Schiltz, etc. Donc là, il y a un problème juridique, l'Église tranchera, on peut même aller jusqu'à dire Ecclésia supplète éventuellement pour les canonisations, à supposer qu'elles soient infaillibles quand les béatifications ne le sont pas. Bon, mais j'ai tenu à en parler parce qu'il y a des gens que ça tracasse vraiment, c'est un gros problème. Je ne me place pas sur ce plan-là, elle est sainte, je sais qu'elle est sainte, parce que ça se voit, je ne suis pas pour les canonisations par acclamation, mais c'est notoire, premier point. D'autres vous diront, ce qui est très embêtant chez Einstein, c'est qu'elle a ménagé le judaïsme, constamment à travers sa mère, ses sœurs, en allant à la synagogue avec elle, etc. etc. Là, j'agrée l'argument, j'allais dire, à tête reposée, dans une salle de conférence, sur un siège confortable, enfin pour moi, pour vous, je ne sais pas, dans une société pluraliste, vaguement respectueuse de nos convictions. Dans le contexte de l'époque, je ne suis pas sûr que l'argument vaille. Ça reste mystérieux pour moi. Par tempérament, je ne me vois pas accompagner ma mère à la synagogue si je me convertirais. Mais je ne suis pas Edith Stein et je ne suis pas un saint. Je ne dis pas que les saints ont le droit de fouler aux pieds la normalité, mais le fait est qu'ils le font, sans complexe. Alors à ce moment-là, le problème théologique qui se pose, c'est de savoir si la norme de la conduite dans une époque donnée, dans un statut donné, c'est l'intellect qui le donne, la théorie, ou bien si c'est l'exemple. Elle a accompagné sa mère à la synagogue. Elle a continué de participer à la vie de famille. Rosanne ne s'est pas faite baptiser. Elle n'est pas entrée en religion parce que sa mère aurait trop souffert, ce serait une rupture. Elle s'en explique elle-même au fur et à mesure. Elle souhaite la conversion de sa mère. Elle l'a toujours souhaité. Mais la violence n'y ferait rien. Violence familiale, violence sociale, violence de l'exemple. Elle a l'intime conviction que sa mère est sauvée. Mais peut-être parce que justement, elle a pris des gants. Des gants, ça ne veut pas dire être écuméniste. Elle a fait ce qu'elle a cru devoir faire à un moment donné, dans une famille donnée, dans les circonstances données. Et puis le reste à la grâce de Dieu. Mais il est typique, comme je disais tout à l'heure, et intéressant de voir qu'elle vient lire ses psaumes avec sa maman, elle vient les murmurer dans son bréviaire romain. Parce qu'elle est catholique romaine. Et elle n'est pas juive. Et donc, ça me surprend, mais ça ne me chagrine pas. Eugenio Pacelli, futur pape Pie XII, nonce à Munich, envoie sa voiture personnelle pour aller chercher le grand rabbin de Munich et les objets du culte et les ramener à nos ossature à un moment de persécution. C'est du moins ce que dit Mgr Roche et dans la célèbre biographie Pie XII devant l'histoire, Pie XII de Saint-Germain. Il envoie sa voiture, la voiture de l'Annonciature, chercher le rabbin et les objets du culte pour les mettre à l'abri. Les saints se permettent ça. Et Saint Pie X, en voyant sa bénédiction à son vieil ami usurier et toutes choses semblables, j'en citerai encore une ou deux tout à l'heure à ce propos-là. Bien. La grâce ne supprime pas la nature. Et la nature peut créer, me semble-t-il, des liens qu'on ne peut pas briser. Une mère de 80 ans est un objet de piété, de respect, qu'on doit ménager. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et c'est ratiociné que de chercher le contraire. Si on va trop loin dans cette voie, si vous voulez, il y aura des noms posthumes pour Thomas More, et ses relations avec l'humanisme, avec Erasme, avec Rabelais, bon. Mort martyr, présenté par Pie XII aussi à la piété des fidèles. Il y a des saints qui dérangent parce qu'il y a des choses dans leur vie qui font des ordres. Mais ils font des ordres et puis c'est tout. Nous verrons le jour du jugement. Vous comprenez, j'essaie simplement de dire en ratiocinant moi-même que l'esprit de finesse doit nous porter sur l'esprit de géométrie pour des cas limites. Elle est un cas limite, mais qu'est-ce que vous voulez, être juif, c'est déjà être limite. Entendons-nous bien. Sur le rapport de l'histoire du salut, et puis surtout à l'époque de la persécution des Juifs, bien évidemment. Bien. Elle a une marraine protestante, autorisation épiscopale. Moi, je renvoie le problème au monseigneur de l'époque. Il avait ses raisons. Bien. La conversion de sa mère, alors là, ça a tracassé beaucoup d'esprits de tradition. Là, on rentre dans l'hérésie, j'allais dire, exprimée, explicite. Elle dit, ma mère ne s'est pas convertie, mais elle est sauvée. Elle sert, elle ne s'est pas convertie, mais il est sauvé, j'ai confiance. Je relirai volontiers ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la mort de sa mère. La douleur de la relation de ma mère est une rumeur sans aucun fondement. Jusqu'à la fin, ma mère est restée fidèle à la loi mosaïque. Depuis sa petite enfance jusqu'à sa 87e année, sa foi et sa confiance inébranlable en son Dieu, intéressant, pas en Dieu, en son Dieu, donc elle n'est pas juive, ont subsisté et se sont manifestés jusque dans sa dernière agonie. C'est pourquoi je suis sûr qu'elle aura rencontré un juge miséricordieux. Pas de problème. Je ne vois pas où est le problème. Un juge miséricordieux. Dieu seul jugera, sonde les reins et les cœurs. Et elle ne dit pas, elle a le droit au salut, elle a le droit à la conversion après ce qu'elle a fait. Non, elle dit, après ce qu'elle a fait, comment la miséricorde divine ne trouverait peut-être pas quand même quelque chose à mettre dans la balance. Il juge, non pas selon nos critères au fort externe, mais nos critères au fort interne. Ce n'est absolument pas contraire à la théologie de l'Église. C'est le problème de l'ignorance invincible. L'ignorance invincible, par définition, appartient au fort interne. Nous ne savons pas ce qu'a été le dernier souffle de sa mère. Nous ne savons pas ce qu'a été la dernière, ultime fraction de seconde. Nous ne savons pas que ce soit, la théologie dit et enseigne, qu'il faut un acte de foi surnaturel. La tradition semble tenir plutôt à une foi explicite au Christ. Les théologiens du 19e et 20e siècle sont plutôt pour une foi implicite. C'est très complexe parce que nonobstant le Père humain, il y a des lignes de Pie IX qui sont assez impressionnantes. Bon, peu importe. Mais ça n'est pas contradictoire. Elle dit, ma mère a vécu dans une telle exigence d'honnêteté que je suppose, moi, sa fille, que son ignorance était invincible. Et je dis comme Einstein, elle aurait dû se convertir quand elle a une fin simple pour suivre. Mais non, nous n'en savons rien. Nous ne savons pas quelles sont les choses qui pèsent. Nous ne savons pas quelles sont les choses qui empêchent. Nous ne savons pas quelles sont les scories qu'il y a dans l'âme. Elle se contente de dire qu'elle suppose que Dieu, à la dernière seconde, lui aura donné cette révélation où tout devient clair. Et quand sa mère meurt et qu'elle dit, je l'ai senti près de moi, et maintenant elle voit, elle ne dit pas quelque chose contraire à la théologie de l'Église. Et je donnerai un exemple que je ressors régulièrement parce qu'il est un peu occulté dans la biographie de Saint Pie X. Archevêque de Mantoue, avec un jeune vicaire, il visite un cimetière juif. Et sur les tombes juives, il dit à son jeune vicaire, « Et si on chantait un De Profundis ?» Le jeune vicaire est époustouflé. Il chante De Profundis, et Saint Pie X se tourne vers le jeune vicaire et lui dit, mon cher ami, vous avez fait vos études à Rome, c'est très bien, vous êtes un grand théologien, c'est très bien, vous êtes beaucoup plus savant que je ne l'ai été, c'est très bien. Mais vous savez, la théologie du bon Dieu n'est pas forcément la nôtre. Et il sort du cimetière. Et c'est Saint Pie X qui a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, comme Vatican II l'enseigne, qu'on se sauve dans le judaïsme. Ça veut dire que Dieu seul sait quelles sont les âmes de ces juifs morts qui étaient dans l'ignorance invincible et pour lesquelles, après tout, on peut bien prier. C'est d'un autre ordre théologique. Bon, je pense qu'il serait malhonnête de prêter à Einstein des convictions qu'elle n'a pas eues, et je dirais même à la limite qu'elle ne pouvait pas avoir dans l'environnement, dans l'habitus théologique d'un Carmel des années 30. Je ne crois pas. Je crois que c'est faire de la... C'est se méprendre en quelque sorte a posteriori. Bien. Y a-t-il encore des choses qui chagrinent certaines personnes de la tradition? Sa phénoménologie. Oui, elle est restée attachée, entre guillemets, à son maître. Mais c'est normal d'être attachée à son maître, c'est un devoir de piété selon la nature, n'est-ce pas? Même si on dit après, Amicus Plato, Magis Amica Veritas. Mais elle s'en explique elle-même. En quelques lignes, n'est-ce pas, dans l'avant-propos de l'être fini, l'être éternel, je cite, elle parle d'elle-même, c'est des choses assez intéressantes, n'est-ce pas. Saint Thomas trouva une élève pleine de respect et de bonne volonté, mais l'entendement de cette élève n'était pas une tabula rasa, car il était déjà marqué d'une très forte empreinte indélébile. La rencontre de deux mondes philosophiques exigeait une discussion, etc. Bon, et un peu plus loin, elle-même parle, cette fois-ci à la première personne, bon, de sa rencontre avec Saint Thomas. Que dit-elle, Einstein? J'ignorais tout de Saint Thomas, je m'y suis mis à 40 ans. J'étais une phénoménologue née et fascinée par cette voie de retour au réel. Je découvre que ce n'est pas la philosophie de l'Église. Je me mets loyalement à la philosophie de l'Église et la conjonction ne se fait pas toute seule. Alors, j'écris, je réfléchis, mes supérieurs me demandent d'écrire Et mon petit bonhomme de chemin m'amène tout doucement vers une compréhension toujours plus grande, dit-elle, de saint Thomas. Mais j'ai toujours des doubias, j'ai toujours des doutes, j'ai toujours des objections. Elle ne peut pas les taire. Pourquoi dit-il ceci? Pourquoi dit-il cela? Excusez-moi, j'ai presque pris tout mon temps, donc je ne voulais pas. C'est absolument passionnant, cette préface de l'être fini, être éternel, sur ce qu'elle explique de la méthodologie philosophique, les objections, n'est-ce pas? La considération des preuves positives qu'on doit avoir si l'on veut agréer la pensée de saint Thomas, etc. Bien. Donc, là, à mon avis, l'argument philosophique n'a pas d'intérêt, formellement parlant, à la vie de Wittgenstein. Et il a encore moins d'intérêt vis-à-vis de la sainteté. Hein. On n'est pas un saint pour ses idées, on est un saint pour son amour du Christ. Elle peut s'être brûlée sur toute la vie de leur philosophie, elle n'a jamais soutenu que son propos était de foi. C'était une recherche et une démarche. Elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. Et à ce moment-là, je reviens à Thomas More, sauf erreur de ma part, l'utopie a été immédiatement condamnée à sa parution. Et je ne pense pas qu'on ait demandé à sa canonisation d'en brûler tous les exemplaires dans le monde. C'est comme ça, les hommes sont complexes, sont multiples et divers. Non, voici les derniers mots que je dirais sur elle. Comment je la perçois, comment je la ressens? Et ça pourrait être, c'est là qu'il faudrait une autre conférence sur les voies de la conversion. Il faut se rendre compte de ce qu'est un juif de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. La rupture totale avec le monde traditionnel juif, avec le ghetto, avec le Talmud, avec la Kabbale, avec la loi. La laïcisation, l'acquisition des droits. Un individu qui n'est plus juif, mais qui n'est pas chrétien. Qui est réputé non allemand par ceux qui se sentent plus allemands qu'eux, mais qui ne sont pas encore israéliens parce qu'il n'y a pas d'Israël, donc il n'y a pas encore eu l'Aliya, etc. Bon. Le juif qui se convertit dans les années 1910-1920, je le dis charitablement, affectueusement, est quelqu'un qui est à la dérive. Il y a une dérive. Bon. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir que cette dérive, cette recherche à tâtons, passe par des voies. Peut-être un baccalauréat. Un Max Jacob, par exemple, poète surréaliste, n'est-ce pas, se convertit, hein, surnaturellement, peut-être, bon, mais puisqu'il allait faire chez les surréalistes, franchement, avec les Bretons et compagnie, bon, peu importe, ça ne me garde pas, son voie divine. Donc, ce qui me suffit pour moi, c'est qu'elle a été happée par Sainte-Thérèse d'Avila, happée par le Carmel, happée par la croix, et qu'elle l'a compris instantanément et totalement. Du jour au lendemain, elle est la perfection de l'obéissance, la perfection de la prière, des heures et des heures par jour devant le Saint-Sacrement. Elle est la perfection du sacrifice, de la charité fraternelle, de la délicatesse. C'est une sainte, c'est un exemple, et je me réjouis qu'elle soit sur les autels. Le reste est anecdotique, le reste est accidentel et pas essentiel. Par contre, et là, je veux bien emboîter le pas à Rome, il y a un signe, il y a quelque chose dans un dialogue, comment dit-on maintenant, un improbable dialogue avec le judaïsme, il y a quelque chose de saisissant dans cette conversion. Parce que c'est celui d'un intellectuel. Et c'est ça qui m'intéresse, qui m'a toujours fasciné en tant que professeur, c'est une philosophe, un professeur, qui fait une démarche à la fois mystique et intellectuelle. Et ça ne court pas les rues. Des secrétaires particulières de Husserl qui finissent carmélites, j'allais dire, dans l'acceptation joyeuse de la croix, ça ne coupe pas les rues. Et donc, là, nous avons, j'allais dire, un embryon de dialogue avec le judaïsme, si je me fais bien comprendre. C'est là qu'on devrait placer la discussion. Monsieur Drey l'a parfaitement compris. Dans cette page déplaisante que je vous ai lue tout à l'heure, il montre qu'il a tout compris du problème. Donc on peut discuter avec lui. Donc on peut parler de Wittgenstein. Donc on peut écrire sur elle. Et il est à souhaiter qu'on continue là-dessus. C'est-à-dire que l'on impulse, j'ose dire, un véritable dialogue judéo-chrétien autour de la croix, autour du scandale de la mort, autour du sacrifice propitiatoire, autour de la colère, du jugement, n'est-ce pas, et du mystère du salut. C'est une seule chose qui est intéressante. Le reste n'a aucun intérêt. Hein, et je dirais même mieux, l'antisémitisme nazi ou autre est un anecdotique, disons. C'est pas là l'essentiel. Hein. L'essentiel, je crois, qu'est Wittgenstein, et ceux qui écrivent sur elle l'ont parfaitement compris. Je vous remercie.